Alors, voyez, c'est le candidat à la présidence, candidat démocrate, Joe Biden, qui présentait sa colistière. Et nous allons saluer, mesdames, messieurs, l'arrivée de Valérie Beaudoin. Bonjour, Valérie.
Bonjour.
Et la première chose, c'est qu'il faut savoir comment prononcer son nom. Il y a eu une polémique toute la semaine aux États-Unis, à savoir comment on doit prononcer. Ici, nous autres, on le prononce un peu en français, Valérie, en disant Kamala. C'est Kamala Harris. Mais la façon exacte de prononcer son nom, c'est Kamala. Kamala.
Exactement.
Comme une virgule en anglais, Kamala. Et ils se sont regardés, quand je dis regardés, les démocrates, les républicains, puis tout ça, puis les médias qui sont... Ben, le seul média vraiment pro-Trump, c'est Fox un peu. Il y a un animateur de Fox qui a dit « Qu'est-ce que ça peut bien faire qu'on prononce Kamala? » Kamala. Alors, Kamala Harris est devenue la colistière de Joe Biden.
Oui, et on s'en était parlé beaucoup ici à l'émission parce que c'était elle qui était, je vous dirais, en top de liste, hein, qui était le choix peut-être numéro un, le choix le plus prévisible. Mais quand même, je voulais revenir là-dessus, même si on en a parlé beaucoup dans les médias toute la semaine, parce qu'on le voit déjà un peu l'effet Kamala, à la française Harris, parce qu'on le voit, là, vraiment, on sent qu'il y a une ferveur chez les démocrates, que ça leur a donné ce que je vais dire, c'est une expression anglaise, mais un boost à la campagne de Joe Biden, parce que c'est pas lui le plus dynamique, c'est pas lui qui va soulever nécessairement les foules, on le sait, mais Kamala Harris, avec cette arrivée-là, écoutez, en 24 heures, il y avait plus de 20 millions, juste le 24 heures après son annonce, d'amasser pour la campagne de Joe Biden. Alors ça, au niveau financier, ça aide aussi Joe Biden. Et j'ai hâte. Et Paul, je suis certaine que tu as hâte aussi. Le 7 octobre, débat entre Mike Pence et Kamala Harris.
Ça va être bon, ça va être tabou.
C'est déjà dans mon agenda.
Non, mais parce que Mme Harris est redoutable. Elle est redoutable. Mais ce que je veux dire cependant, c'est que sa campagne à l'investiture a fait pointe-pointe. Elle était partie sur les chapeaux de roue. Hein? Valérie, elle était comme une candidate vedette. On dirait que Kamala va faire des ravages. Elle va peut-être même finir par obtenir l'investiture. Puis après ça, elle est disparue complètement.
Oui, parce que, écoutez, elle a eu de la difficulté à se positionner. Je pense que c'est ça qui lui a nui. Parce qu'elle était un peu à gauche, un peu au centre. Elle avait de la difficulté vraiment à vulgariser c'était quoi son plan pour l'Amérique à la défense. De l'autre côté, là, on avait un Bernie Sanders, une Elizabeth Warren qui était très, très claire dans ce qu'ils voulaient, qui était à gauche, qui était des progressistes. Et on avait d'autres qui disaient « on est au centre, on est des modérés ». Et on retrouvait Kamala qui dansait un peu des deux côtés. Et je pense que les électeurs avaient de la difficulté à se retrouver en elle, en se disant « c'est clair ce qu'elle veut et c'est clair ce que nous, on veut. » Je pense que pour une vice-présidente, par exemple, le fait qu'elle a dansé des deux côtés, une candidate plutôt à la vice-présidence, ça va un peu l'aider à rejoindre autant des progressistes sur certaines des mesures qu'elle met de l'avant que les centristes qui auraient eu peur peut-être à une Elizabeth Warren comme colistière.
Et n'oubliez pas une chose, elle met la table pour très certainement devenir la candidate démocrate à l'élection de 2024. Ça, c'est à peu près certain. C'est écrit dans les livres, ça.
Oui, je suis bien d'accord parce que, et c'est pas pour rien qu'elle est là et qu'elle a accepté, hein. C'est parce que c'est un très bon tremplin vers la présidence. Oui. Et c'est d'ailleurs ce peut-être qu'on critiquait de cette candidature-là. Est-ce qu'elle va trop vouloir faire avancer ses propres intérêts pendant le mandat de Joe Biden, s'il y en a un? Ça restera à voir.
Alors, il y a une chose qui est certaine. Elle doit certainement faire peur un peu son arrivée au président américain Donald Trump, qui a ressorti une vieille marotte qu'il avait utilisée contre Barack Obama, en remettant en question le fait qu'il soit éligible.
Elle ne remplit pas les conditions légales.
Exact, éligible. Parce qu'on l'utilise, éligible, souvent toutes sortes de choses. Mais quand on dit éligible, est-ce qu'elle a le droit d'être candidate, notamment à cause de son certificat de naissance?
Exactement. Et je veux juste vous rappeler que Donald Trump, c'était un des individus qui mettait le plus de l'avant cette théorie des birthers aux États-Unis, qui disait que Barack Obama n'était pas né aux États-Unis, donc il ne pouvait pas être le président. Exactement, que ça avait été falsifié, il avait fallu qu'on sorte son certificat de naissance. Écoutez, ça avait fait toute une histoire. Et il avait admis en 2016, finalement, que oui, Barack Obama était bel et bien né aux États-Unis. Ça, c'est une chose. Et là, maintenant, il y a des théories qui sortent que Kamala Harris ne pourrait pas être vice-présidente, encore moins présidente, parce que justement, elle ne serait pas née aux États-Unis. Mais en fait, ce qu'on sait, c'est qu'elle est née en Californie.
Elle est née à Oakland.
Exactement, mais ses parents, comme ils n'étaient pas officiellement citoyens, alors c'est ça qu'on remet en question actuellement.
Pas le lieu de naissance.
Exactement. Alors, on mélange un peu les deux choses parce que dans la Constitution, il n'est pas écrit « il faut être blablabla que tes parents soient citoyens ». Il est écrit « il faut être né aux États-Unis et être citoyen américain ». Et elle est citoyenne actuellement américaine. Donc, normalement, il n'y a aucun problème. Et en point de presse, lorsqu'on l'a questionnée là-dessus, le président n'a pas dit « non, elle n'est pas née aux États-Unis », mais il a quand même dit « ah, il y a des gens crédibles, j'ai lu ça ». Alors, il semblerait qu'elle ne puisse pas être vice-présidente. Ça me surprend que les démocrates n'ont pas fait leur devoir. Alors, je vous dirais que ça alimente quand même ces théories-là auprès de ses supporters.
Et la grande préoccupation du président actuel, Donald Trump, c'est le vote par la poste. Et voilà que le US Postal, comme on dit, c'est-à-dire l'Office des postes des États-Unis, occupe une place immense dans l'actualité depuis une couple de semaines.
Oui, et je veux pas ennuyer les auditeurs parce que là, ils vont dire, bon Dieu, pourquoi on parle de poste en parlant des États-Unis? Pourquoi c'est important? Mais c'est au cœur vraiment de l'élection et de la réélection potentielle de Trump ou l'élection de Joe Biden parce qu'en ce moment, même dans le plan de relance pour les Américains, pour les aider pour la COVID, on négocie combien d'argent on va allouer au service postal. Parce que les démocrates, juste vous rappeler qu'ils veulent, ils poussent beaucoup pour qu'on puisse voter de la maison, donc que les gens reçoivent des bulletins de vote à la maison et puissent voter sans avoir à le demander. Alors, ils demandent, les démocrates, 3 milliards de dollars pour ces votes-là et 25 milliards de dollars pour financer le service postal. Et là, et le président l'a dit lui-même, et il l'a dit en conférence de presse, mais écoutez, s'ils n'ont pas de fonds, ils ne pourront pas avoir ce vote-là qui va fonctionner, alors on leur donnera pas de fonds. Et ça fait un peu, écoutez, on veut bloquer cette façon-là de voter. Il l'a dit, il veut que ce soit le vote traditionnel, qu'on se rende directement à un point de vote. Mais avec la COVID-19, on a peur que les gens décident de ne pas sortir, décident de ne pas aller voter, faire de longues files pendant de longues heures. Alors, vraiment, là, ça, c'est au cœur. Et juste pour vous dire à quel point tout ça, on dit que l'on est en train de bloquer certaines machines, certaines façons de faire pour que les gens ne reçoivent même pas à temps les bulletins de vote pour voter. Et en terminant, là, le Postmaster General qui est à la tête, c'est un important donateur républicain et qui est sa femme, la future ambassadrice du Canada.
Le monde est petit.
Oui.
Mais ce que je veux dire là-dedans, Valérie, c'est que c'est un peu comme si Donald Trump, qui est toujours calculateur, il espère toujours gagner, il croit pouvoir gagner, mais si jamais c'était serré et qu'il perdait, il veut tout de suite placer le scénario en disant « Voyez ce que ça donne le vote par courrier, par la poste, le vote à distance. » Ça équivaut à une fraude. Il est en train d'installer ça en ce moment. Et on n'est même pas rendu là encore.
En fait, il est en train d'installer plusieurs petites raisons pour lesquelles il va refuser les résultats de l'élection.
Mais le plus drôle, c'est que lui et Mélania veulent voter par la poste en Floride.
Exactement.
C'est complètement contradictoire. Il a demandé 2 bulletins de vote par absentia, comme on dit, là, par absence.
Par anticipation.
Par anticipation. Voilà ce que je cherchais. Oui.
Non, mais ce que j'allais dire, c'est que ce qui est particulier aussi, c'est qu'il l'a dit. C'est pas non seulement qu'il a peur à la fraude, c'est qu'il a peur que le soir même, on puisse pas, que CNN ou Fox ne peuvent pas dire, écoutez, on vous prévoit que le prochain président des États-Unis est X ou Y. Il veut pas avoir à attendre des semaines pour savoir c'est qui pour recompter les votes. Je vais être d'accord avec lui, c'est que s'il y a pas d'argent, ça marchera pas, c'est sûr.
Ça ne marchera pas. Alors, il y a 2 livres qui vont sortir, dont un livre choc de l'ancien avocat et conseiller du président Trump, Michael Cohen.
Oui, « Disloyal » est le titre. Je vous rappelle que c'était l'avocat personnel de Donald Trump, son « fixer », comme on dit. Il a dit dans une déclaration qu'il allait vraiment ressortir tous les squelettes dans le placard de Donald Trump, le présenter comme un menteur, un intimidateur, un raciste, un prédateur, et qu'entre autres, il regrettait d'avoir menti à Mélania autant de fois lorsque Trump la trompait. Et il va parler aussi de la relation, bien sûr, entre Trump et Vladimir Poutine. Il veut que tout le monde puisse lire son livre, donc ça va sortir en septembre prochain. Je pense pas que ça va être un livre qui va être très, très crédible aux yeux des gens qui vont lire. Ça semble un peu un livre à ragots, là, à potin, de ce qu'on voit là, vraiment, parce qu'il veut parler des fréquentations de Donald Trump.
Il ne dit pas tout. Viens, Moniz, j'ai lu quelques extraits là, par anticipation, comme on dit. Et là, il vient pour dire quelque chose de très grave, notamment comment et pourquoi le président américain a manœuvré avec les Russes pour arranger l'élection de 2016. Puis là, après ça, au moment où tu dis dans les prochains chapitres, on va avoir la recette de cuisine, comment le président a opéré frauduleusement. Ben non, on n'a rien. On n'a rien, il arrête.
Ça, oui, c'est ça.
Alors, ça, je ne peux pas en parler. Fait que ça fait pas très sérieux. Alors, Valérie, on va surveiller la convention démocrate cette semaine.
Oui, exactement. À partir de lundi, il va y avoir des... Barack Obama va parler, Michelle Obama, la femme de Joe Biden aussi. Bien sûr, il va y avoir Kamala Harris qui va être présente pour avoir son discours avant celui de Barack Obama.
Attendez, là, vous l'avez mal prononcé, là. Ça va avoir une controverse.
Ah,
Kamala. Kamala.
Kamala.
Non, mais
Kamala. Je la prononce encore un peu à la française.
Ben oui, c'est une blague que je vous fais. On va toujours prononcer à la française. On va dire Kamala ici. Mais c'est parce que quand on en est rendu à faire un plat d'un côté comme de l'autre, qu'on soit partisan ou qu'on soit un adversaire, sur la manière de prononcer le prénom, c'est parce qu'on est rendu loin. Merci beaucoup, Valérie. Merci, bonne semaine.
Avec plaisir. Bye-bye.
C'est Valérie. Valérie.
Oui, Valérie.
Et vous, Thérèse.
Oui, ça. Ça, la française.
Ils font une histoire cette semaine aux États-Unis. Si vous ne prononcez pas correctement
Kamala.
Le prénom Kamala. Kamala. Ça veut dire que vous êtes contre.
Ah, il suffit de penser à Kamala.
Oui.
Common law.
Exact. Common law. Mm. Ou encore comma.
Oui, ça nous donne
la virgule.
Mais
en
mon
anglais.
Dieu Seigneur, c'est.
Mais en fait, une grande histoire, finalement. Il y a...
grande histoire avec ça.
Il y a un animateur de Fox, il dit so what? Il a fini par. Il y a quelqu'un. Il y avait un chroniqueur qui le reprenait pendant toute la chronique. Il disait non, vous ne prononcez pas comme il faut, c'est common law. Et un animateur vedette de Fox.
On pourrait dire ça de Fox aussi. So what?
Ouais, so what?